Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna de La Marseillaise pour évoquer avec elle la une du journal à paraître ce vendredi dans tous les bons kiosques. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors on commence avec la COP27 vue d'ici et notamment avec les deux marches pour le climat qui auront lieu samedi 12 novembre, donc ce samedi à Nîmes et à Montpellier.
Oui, tout à fait. La COP27, alors évidemment, ça se tient en Égypte.
Hein, oui.
C'est sous l'égide des Nations Unies. Tous les États sont à peu près représentés. Donc, c'est pour faire le point sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous avons décidé de l'évoquer dans un dossier assez conséquent, assez fouillé, avec notamment des exemples d'actions concrètes au niveau des collectivités locales. Donc, on a choisi de mettre en avant les actions du Conseil départemental de l'Hérault, qui est responsable des routes, et comment il travaille ces questions-là avec ses compétences. Et puis aussi, il y a le volet extrêmement important, c'est-à-dire le volet citoyen, qui se mobilise pour faire pression, vu la situation de plus en plus dramatique. Et nous avons une interview aussi très intéressante d'un chercheur du Centre national de recherche météorologique de Toulouse, oui. Saïd Kazmi, ils ont fait des études où ils nous annoncent quand même un réchauffement climatique qui s'accélère en France.
Oui, on est très très en retard et la France sera un des pays les plus touchés visiblement.
Exactement, et c'est ce qu'il démontre.
Le deuxième titre de La Marseillaise parle de la ZFE de Montpellier qui est fustigée par l'association de 40 millions d'automobilistes qui réclame un report de son application.
Oui, tout à fait. Donc la zone à faible émission, c'est un périmètre qui est décidé donc par les agglomérations et notamment l'agglomération de Montpellier qui vise à interdire l'accès à ce périmètre-là aux automobilistes dont la voiture est trop polluante.
Oui.
Et donc l'association 40 millions d'automobilistes qui a une antenne à Montpellier a tenu une conférence de presse à laquelle nous avons assisté, puisque nous suivons de très près ce dossier. La semaine dernière, nous avions les élus communistes qui ont, poussé carrément un cri de gueule en disant que c'était de la chasse aux prolos, pour employer un terme un peu choc. Et donc, cette association va au-delà de la dénonciation de ce qu'ils appellent une usine à gaz. Et ils font aussi des propositions, c'est ce que nous détaillons dans notre article.
La Marseillaise parle aussi, on reste dans le même sujet au fond, l'augmentation du prix du stationnement à Montpellier qui était déjà exorbitant.
Oui, alors l'augmentation du prix des stationnements dans la ville de Montpellier, bon, ça participe d'une politique qui vise en fait à ce qu'il y ait moins de voitures à Montpellier, mais aussi moins de voitures sur l'espace public. Donc Manu Reynaud, qui est l'adjoint au maire de Montpellier, qui est chargé de ces questions, argumente dans nos colonnes de ce choix. On revient aussi sur quand même une décision qui ne relevait pas de la municipalité actuelle de Michel Delafosse, mais de Philippe Sorel, qui était de privatiser la verbalisation des voitures mal stationnées. Et c'est ça qui est à l'origine de l'augmentation des prix. Donc là, il y a des mesures qui sont prises. Nous donnons la parole à l'adjoint et nous expliquons les mesures et le pourquoi cette décision avec des nouveaux périmètres de stationnement.
La Marseillaise évoque aussi les deux ans de l'association Deliveroo, née pendant le second confinement et qui cuisine des plats chauds pour les personnes sans abri.
Oui, alors ça c'est très très intéressant et nous semblait important de faire un point avec cette association qui donc fête ses deux ans d'existence. Elle est née pendant le second confinement, pendant la pandémie, et elle aurait pu s'arrêter à ce moment-là une fois que les confinements étaient levés, mais elle a continué parce que ça répond à un besoin important. En fait, ce sont des bénévoles qui, comme vous l'avez dit, cuisinent des plats chauds et vont les livrer directement aux personnes sans abri sur la ville de Montpellier,
ouais.
qu'ils ont évidemment repéré. Et du coup, ça répond à un besoin pérenne. Hein. Ça fait penser aussi, dans notre registre, au SCUM, hein, ce syndicat oui. Des étudiants de Montpellier qui font des distributions gratuites de nourriture pour les étudiants, et les files sont encore très très importantes lors de ces distributions, comme on a pu le voir à Montpellier ces derniers jours.
Ou quand les associations font le travail de l'État. On n'en dit pas plus. Allez, côté culture, c'est le retour à Montpellier de la zone artistique temporaire. Et alors, pour la petite info, Pascal Lebrun-Cordier sort à peine de notre studio pour parler
D'accord.
de la ZAT. Et on peut le retrouver dans la Marseillaise. Ça aura lieu les 11 et 12 novembre prochains, donc ce vendredi et ce samedi.
Oui, alors là, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que depuis 2019, donc la zone artistique temporaire, la ZAT, n'avait plus lieu. Donc c'est vraiment une édition du renouveau, hein, de la renaissance de la ZAT. Hein. Donc ça se passe vendredi et samedi, donc les 11 et 12 novembre, avec évidemment énormément de propositions artistiques, hein, autour de trois thématiques. Hein. On a le feu, la fête et la troisième, je n'ai plus en tête, mais en tout cas, ça sera un grand moment. Il y a aussi la mini-ZAT pour les enfants.
Oui.
Alors nous, on fait un zoom évidemment sur la ZAT, et puis nous avons dans nos colonnes, comme depuis quelques semaines, le supplément Zébuline.
Et oui.
Nos collègues de Zébuline qui reviennent aussi sur différents aspects de la ZAT. On n'en parle jamais suffisamment on donne, j'espère, envie aux personnes d'aller profiter de ces moments de partage avec des propositions artistiques entièrement gratuites pour toutes les générations.
Et pour finir, la Marseillaise fait un détour par le Gard avec un événement pour célébrer le 50e anniversaire de la parution du roman de Jean Carrière, L'épervier de Maheu, prix Goncourt de 1972.
Oui, donc c'est une très belle initiative. Là, c'est le département du Gard, hein, le conseil départemental du Gard, qui a décidé donc de célébrer ce grand auteur, L'épervier de Maheu, donc écrit par Jean Carrière et qui a été couronné du prix Goncourt il y a 50 ans, tout juste. Hein. Et donc, c'est important parce que ce roman parle évidemment du territoire Cévenol. Il fait partie des livres qui sont devenus des classiques. Hein.
Oui.
Il y a des prix Goncourt qui passent aux oubliettes, hein, mais il y a des prix Goncourt qui tiennent la rampe. Hein, on peut parler de chefs-d'œuvre et de livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Alors, il y a le conseil départemental qui va donc célébrer ce 50e anniversaire. Et puis, il y a aussi la ville de Nîmes qui, elle, fait... célèbre le prix Goncourt, hein, avec différentes initiatives qui ont commencé et qui vont continuer jusqu'au mois de décembre. Donc on donne tous les détails dans la Marseillaise de ce vendredi.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et le dossier de cette nouvelle Marseillaise concerne la COP 27 vue d'ici, avec notamment deux marches pour le climat qui auront lieu ce samedi 12 novembre à Nîmes et à Montpellier, Françoise.
Oui, alors c'est important parce que l'intervention citoyenne est indispensable, hein, peser sur les États.
Et oui.
Parce qu'il faut savoir que la COP27 est organisée, donc c'est la conférence des partis pour la lutte contre le réchauffement climatique. Hein.
Mm-hmm.
Elle est placée sous l'égide de l'ONU, donc c'est vraiment un gros coup de projecteur sur la nécessité pour au niveau mondial que les États, et notamment les États dits riches, fassent des actions très concrètes et investissent énormément pour éviter que notre planète devienne invivable, sachant que ce sont les populations les plus fragiles et les plus pauvres qui en paient le prix lourd.
Oui, et les moins polluantes d'ailleurs en plus.
Et d'ailleurs, ce sont les moins polluantes. Et c'est le véritable enjeu de cette COP27. Nous expliquons les enjeux de la COP27 et nous donnons la parole à ces citoyens qui, à leur échelle, se mobilisent pour peser sur ce débat et pour faire agir. Donc, ce que nous expliquent les citoyens qui vont notamment, qui organisent ces marches pour le climat, bon, qui sont organisées un peu partout sur la planète. Hein. Ça se passera le samedi 12 novembre. Chez nous, donc, il y aura une marche à Montpellier et une marche à Nîmes. Oui. Alors, ce qu'ils attendent de la COP, c'est le renforcement des objectifs et surtout le respect des engagements et la mise en œuvre d'une vraie solidarité internationale, comme on le disait, entre les pays riches qui sont des émetteurs de gaz à effet de serre, donc responsables du réchauffement, et les pays pauvres, hein, ou les pays en émergents ou en voie de développement, qui en subissent les conséquences. Oui. Alors, nous avons aussi à l'appui de cette parole citoyenne, une parole qui est aussi citoyenne, mais qui est aussi une parole de chercheur, puisque nous avons l'interview de Saïd Kazmi, donc qui est chercheur au Centre national de recherche météorologique de Toulouse, et il est l'un des co-auteurs d'une étude qui a été réalisée par une équipe du CNRS, de Météo France et du Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Oui. Et il revoit, cette étude revoit à la hausse le réchauffement climatique en France, et ça augure des conséquences sévères donc sur nos écosystèmes et notamment l'agriculture.
Et oui.
Alors, les projections, on peut dire que c'est loin, mais on en ressent déjà les effets. Hein. On se souvient de cet été caniculaire que nous avons vécu, de cette sécheresse qui perdure, hein, qui n'est pas terminée. Hein. Et ce que nous dit le chercheur, c'est que d'ici 2100, les projections prévoient un réchauffement deux fois plus rapide que prévu, de plus de 3,8 degrés en moyenne annuelle par rapport au début du XXe siècle.
D'accord.
Donc ça, on est vraiment sur des données. Donc ils sont allés plus loin que le GIEC, ils sont basés sur le GIEC pour se concentrer sur la France et faire des simulations très très précises et très rigoureuses. Avec une méthodologie précise à partir des données que nous connaissons en France, que l'on observe depuis 1900, l'année 1900. Voilà. Alors il y a c'est un chercheur qui fait cette étude, et puis il y a des scientifiques qui sont passés aussi dans le champ de l'action, de l'action et même de l'activisme, hein, puisque on a des scientifiques qui se rebellent pour le climat, et nous avons des scientifiques en rébellion. C'est une association, il y a une branche à Montpellier, et ils protestent contre l'inaction générale face à la crise climatique. Donc nous leur donnons aussi la parole. On a Florence Voller, qui est chercheuse et qui est membre du collectif à Montpellier. Alors, pour vous donner la mesure, il y a 300 membres actifs en France, et il y en a une cinquantaine sur Montpellier. Hein.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une place forte de ces scientifiques qui veulent agir. Alors, l'actualité, c'est que, si vous vous souvenez, le 2 novembre, il y a eu une dizaine de scientifiques du collectif, donc il y avait parmi eux le spécialiste toulousain Sylvain Cupel, qui ont été placés en détention à Munich, en Allemagne, puisqu'ils avaient fait une action de désobéissance civile non violente. Hein, ils ont été libérés le 4 novembre, mais il y a eu une pétition actuellement en ligne, hein, qui montre que la colère continue chez les scientifiques. Hein. Il y a une pétition qui a été signée par plus de 1300 scientifiques pour rappeler l'inaction des gouvernements. Donc on en revient toujours à la COP, et avec ce cri des pays et des chefs d'État de ces pays en voie de développement, qui disent qu'on n'y ont toujours pas reçu de compensation,
notamment des États-Unis,
pour les dégâts. Exactement. Donc voilà, c'est un dossier que nous avons aussi voulu positif, dans le sens où on met aussi l'accent sur des actions. à échelle locale et même départementale, puisque là nous faisons un zoom sur les actions du conseil départemental de l'Hérault.
Oui.
Alors on sait que le conseil départemental de l'Hérault, il a notamment comme compétence l'entretien et l'aménagement du réseau routier départemental. Et justement, on peut penser la route, c'est vraiment pas vraiment la meilleure amie de l'environnement, mais Valérie Andrieux, qui est la directrice des routes et mobilités au département de l'Hérault, elle dit qu'ils ne sont pas des affreux goudronneurs, il y a des mesures qui sont prises, par exemple, il y a des réalisations très concrètes, pour réduire l'empreinte carbone du bitume. Mmh. Par exemple, sur la route départementale 26 à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
oui.
Il n'y a pas de revêtement à chaud. Ils ont utilisé une technique de bitume recyclé avec un liant à base d'huile de résine de pin.
D'accord.
Donc, il y a des gains énergétiques parce qu'il n'y a pas d'apport de matériaux par camion,
mmh.
et un gain de temps pour les travaux. Et donc, c'est une expérimentation qui va se poursuivre en 2023 avec des lions végétaux. On a aussi, par exemple, à Olonzac, la chaussée du parking de l'agence routière, qui est utilisée comme un chauffe-eau solaire, grâce à des capteurs solaires sous l'enrobé. Et donc, ça répond aux besoins de chauffage du bâtiment. C'est complètement couvert. Ou alors, nous avons aussi la piste cyclable de Bouzigues. Alors là, ils ont carrément reconstitué un béton à partir de coquilles d'huîtres broyées par une entreprise sétoise, l'entreprise Colas. Alors, c'est une technique qui permet de recycler les coquilles et de rester en circuit court.
Et oui.
Donc voilà, on donne toute une série d'exemples qui montrent que il n'y a pas d'inaction sur le plan local. Mais bien évidemment, s'il n'y a pas de décision sur le plan national et international beaucoup plus volontariste et vigoureuse, les actions locales vont être limitées, quoi.
Et oui.
Voilà. Donc, c'est notre dossier de la semaine, la COP27 vue d'ici.
On reste à peu près dans la même thématique avec la ZFE de Montpellier qui est fustigée par l'association 40 millions d'automobilistes et qui réclame un report de son application.
Oui, tout à fait. Donc, cette association, elle exige deux choses. Déjà, bon, elle fustige ce qu'elle appelle l'usine à gaz qui est la ZFE.
Alors la ZFE, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant,
oui.
Françoise.
Oui, alors la ZFE, ça veut dire zone à faible émission.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est un périmètre décidé au niveau des agglomérations, en l'occurrence au niveau, là, pour nous, de la métropole de Montpellier, qui consiste à interdire à terme, petit à petit, l'accès aux voitures qualifiées de polluantes qui n'ont pas la vignette critère 1 ou 2. D'accéder à ce périmètre qui va s'agrandir, c'est-à-dire qui va toucher quasiment tout le périmètre de la métropole et toutes les communes. Donc ça va poser des problèmes, ça pose des problèmes de mobilité en voiture pour les habitants. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, c'est vraiment pour eux inacceptable. C'est-à-dire que ça va toucher essentiellement les personnes qui ont de petits revenus
et
ou
oui.
des revenus moyens.
Et qui ne peuvent pas changer leur voiture.
Donc, donc le représentant de l'association à Montpellier, Pierre Chasseret, nous explique que, bon, évidemment, il faut réduire les émissions de CO2, mais on ne peut pas le faire au détriment des personnes les moins argentées. Quoi, donc, ce qu'ils demandent, c'est pas d'interdire les ZFE, ils sont réalistes, mais quoi qu'ils disent, qu'ils pensent que ça ne pourra pas être véritablement mis en œuvre vu la levée de bouclier que ça va entraîner. Ils proposent de repousser l'interdiction à 2030. Pourquoi ? Pour laisser le temps aux nouvelles technologies comme l'électrique de faire leur chemin et surtout que les prix deviennent
abordables.
Aujourd'hui inabordables baissent. Et la seconde solution, c'est d'accorder des dérogations, ce qui est déjà le cas pour la ZFE de Montpellier. Il y a déjà beaucoup de dérogations, notamment pour les professionnels. Mais il faut, selon lui, réduire le périmètre et les horaires d'interdiction. Et puis, il propose une solution, c'est d'accepter, alors c'est un terme un peu technique, le décalminage par injection d'hydrogène qui permettrait aux critères 3 de polluer deux fois moins. Pour ça, on sent que c'est un sujet vraiment, vraiment très sensible. Donc l'association et Pierre Chasseret qui la représente nous dit que socialement, elle n'est pas faisable. Surtout après deux années de pandémie et surtout que nous sommes en pleine
inflation.
Crise et inflation.
Et pourtant, on voit déjà pousser les petites vignettes sur tous les pare-brises des voitures, Françoise.
Et oui, bien sûr, puisque c'est, ça s'impose. Voilà. Donc c'est un sujet, on avait déjà abordé ce sujet en faisant un grand dossier et puis la semaine dernière en donnant la parole aux élus communistes de la métropole de Montpellier qui eux parlent carrément de chasse au prolo et qui réclament des politiques là aussi volontaristes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, notamment le développement des transports en commun et du transport ferroviaire. Donc Pierre Chasseret vient aussi enfoncer le clou sur la ZFE, puisque faut savoir que l'interdiction pour les véhicules critères 3, c'est 2025, donc c'est demain, quoi.
D'accord. On reste quasiment dans le même sujet aussi, l'augmentation du prix du stationnement à Montpellier, qui pour moi était déjà très cher.
Oui, alors il était très cher. Donc on revient, il y a eu, donc depuis le 1er novembre, c'est le stationnement sur Varu coûte un peu plus cher. Et il y a deux nouveautés qui viennent compenser ça, je vais vous l'expliquer. Mais la voiture, on peut dire qu'elle est de moins en moins la bienvenue à Montpellier. Donc il faut savoir, d'un point de vue historique, une histoire assez courte, mais que il y a déjà 4 ans, il y a eu une privatisation du stationnement sur Voirie qui a été validée par l'ancien maire Philippe Sorel. C'est la conséquence de cette privatisation, puisqu'il y avait une délégation de services publics, c'était que la suppression voulue par l'État des traditionnelles contraventions à 11 euros au bénéfice des forfaits dits post-stationnement, c'est-à-dire les PV, ils sont passés de 11 à 35 euros. Donc ça faisait déjà cher, Donc c'est déjà très cher. Et depuis le 1er novembre, donc la municipalité a décidé de modifier et le périmètre et la tarification du stationnement payant, qui va s'étendre à certains quartiers. On pense au Millénaire, à Port-Marianne, à Celle-Neuve. Il y a les zones jaunes, c'est limité à 5 heures, orange à 7 heures maximum, et les vertes 9 heures maximum. Et c'est réglementé de 9 heures à 19 heures. Hors le dimanche et les jours fériés.
D'accord.
Donc, on a une augmentation globale du tarif horaire de 10 à 20% selon les zones. Alors, Manu Reynaud, qui est donc l'adjoint au maire chargé de ces questions et qui est donc un élu Europe Écologie des Verts, il explique que c'est notamment un rattrapage qui est lié à l'inflation et à des années de stabilité des prix des horodateurs. Mais il rappelle aussi que l'abonnement résident est avantageux, il est de 150 euros annuels. Alors, quand on lui demande ce qu'il pense de le choix politique fait par Frontignan qui assume une totale gratuité, il répond qu'on n'est pas dans la même catégorie.
C'est vrai qu'il ne peut pas comparer, on n'est pas dans la même taille de ville,
Frontignan et Montpellier. Qui nous explique Manu Reynaud que si on veut que moins de monde circule en ville, on ne va pas favoriser la voiture. C'est un choix assumé. On ne veut pas supprimer la bagnole, mais la remettre à sa juste place. Donc voilà ce qui explique aussi cette modification des tarifs et des périmètres. L'adjoint nous dit aussi que la location de l'espace public, elle a un coût, et c'est à l'automobiliste de s'en acquitter, s'il ne fait pas le choix du vélo ou des transports en commun. Et il rappelle aussi qu'évidemment, le tram et les bus deviendront complètement gratuits d'ici la fin de l'année 2024, début 2025. Il y a deux nouveautés qui viennent compenser cette décision, qui est, bon, est un peu dure à avaler pour les personnes concernées. Hein. Il y a les 30 premières minutes gratuites en zone rouge,
ouais,
avec 14 nouveaux périmètres.
Ouais.
Voilà, il dit que ça permet de dépanner pour un achat rapide, pour faire des courses. Voilà. Et puis, il y a un forfait, là aussi, qui est instauré pour les professionnels et les salariés travaillant à Montpellier.
D'accord.
Donc, c'est un forfait qui coûte entre de 60 à 80 euros en zone verte et quand même de 100 à 130 euros en zone orange.
À l'année ou au moins, Françoise ?
Je pense que c'est à l'année.
D'accord.
Donc voilà. Et il dit qu'aucune autre métropole ne propose un tel forfait professionnel. Donc voilà. Donc tout ça est bien expliqué dans notre numéro de vendredi. Et il faut évidemment être très attentif à ces changements qui sont intervenus depuis le début du mois, là.
Allez, on change de sujet. La Marseillaise parle des 2 ans de l'association Deliveroo, née pendant le second confinement, qui a une très belle initiative puisqu'elle cuisine des plats chauds pour les personnes sans abri et les leur apporte.
Oui, tout à fait. Donc, c'est Deliveroo. Donc, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va porter des repas chauds à des personnes qui, malheureusement, sont sans abri sur la ville de Montpellier. Alors, ce projet, il est né en novembre 2020, hein, en pleine pandémie de Covid-19,
ouais,
et en plein confinement. Et évidemment, il ne pensait pas durer plus que le confinement. Mais 2 ans plus tard, c'est un véritable mouvement citoyen qui a décidé donc de continuer à distribuer en vélo aux personnes démunies ses repas. Et donc, ils font vraiment aujourd'hui complètement partie des acteurs locaux de la veille sociale, hein, qui sont très nombreux à Montpellier. Hein. Et donc, Lila Ruiz nous explique que à l'origine, en 2020, ils étaient 6 à s'être lancés dans cette aventure.
Ouais.
Ils se sont inspirés d'un concept qui existait déjà à Lyon,
ouais,
pendant le premier confinement. Donc c'était vraiment l'idée, ça partait du principe que comme il y avait des moments où des gens avaient plus de temps, ça a permis de créer de la solidarité. Et d'ailleurs, c'est vraiment, il y a eu vraiment des élans de solidarité très importants pendant le Covid. Et Deliveroo fait partie de ces belles initiatives qui sont nées pendant la pandémie, des initiatives de solidarité et qui perdurent aujourd'hui parce qu'évidemment, le problème, le sans-abrisme est toujours prégnant. Hein. Et donc, les personnes préparent chez elles des plats que d'autres personnes vont livrer aux sans-abri.
D'accord.
Et maintenant, c'est complètement installé. Et donc ils ont lancé, alors ça tout se passe par les via les réseaux sociaux, il y a le concept, il y a les cuistons et il y a les cuissons, c'est-à-dire les cuistons solidaires et ceux qui ont la cuisse pour pédaler. Donc il y a les cuistots et les cuissots solidaires, donc les uns donc préparent les repas et les autres passent les chercher pour les distribuer. Donc c'est en plus c'est très bon, c'est sympa, c'est chaleureux et ça répond à un véritable besoin, mais bon, malgré la reprise vraiment du travail, de la vie sociale après la levée de ces confinements, les cuistots et les cuissots, ils continuent à préparer, à distribuer sur leur temps libre. Et bon, et c'est un chiffre important, hein, c'est il y a une moyenne de 500 repas par mois.
D'accord.
Donc,
oui.
Ah oui. Et ils sont montés jusqu'à 2000 repas mensuels lors des deux premiers mois de Deliveroo. Bon, évidemment, ils ont un petit point faible. C'est pour ça que peut-être que notre article va aussi créer des vocations. Ils ont un petit point faible au niveau des cuisseaux parce que c'est au niveau des livreurs. Hein, parce que quand on cuisine à la maison, évidemment... on met des plats de côté, on fait la part pour les personnes qui vont bénéficier de ce repas. Ça prend pas forcément du temps. Mmh. En revanche, aller marauder, aller prendre son vélo, c'est pas la même chose. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc et ce qui est intéressant aussi, c'est que Deliveroo ne travaille pas tout seul dans son coin. On a dit qu'il faisait partie maintenant de ce réseau.
Oui.
Et il s'associe actuellement à un appel aux dons de tentes, qui est de tentes pour s'abriter, donc,
oui.
Hein, qui est porté par l'association Entraide SDF Montpellier. Et donc, nous donnons tous les renseignements, les adresses mail dans l'article, hein, pour à la fois participer à Deliveroo et pour s'associer des tentes pour toi. Des tentes pour toi, T-O-U-T, avec un jeu de mots que tout le monde aura compris.
En tout cas, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Allez, côté culture, à lire dans la Marseillaise, c'est le retour de la ZAT à Montpellier, la zone artistique temporaire, et c'est les 11 et 12 novembre, donc vendredi et samedi.
Oui, donc c'est en fait 12 ans après sa première édition, la ZAT, zone artistique temporelle, donc revient à l'endroit où tout a commencé, c'est-à-dire le quartier Antigone de Montpellier. Donc évidemment, c'est une grande joie parce que ça faisait quand même depuis 2019 que l'événement avait été interrompu hein, à cause, on en parlait, de la pandémie où la culture a vraiment
souffert
et là donc vraiment c'est du spectacle vivant, des propositions artistiques vraiment intéressantes. C'est donc on rappelle un peu le principe hein, de la ZAT hein, c'est-à-dire que c'est transformer un quartier en véritable espace commun avec deux jours, deux soirées et une centaine de rendez-vous au total. Hein. Y a des spectacles, des surprises urbaines, donc sur la place du Nombre d'Or, au Lez. Alors, je disais dans la présentation générale de nos titres que la programmation de cette édition 2022, elle se construit autour de trois thèmes. Il y a le feu, il y a la fête et il y a le futur. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir que Antigone, cette année, ce quartier vraiment emblématique de la ville de Montpellier qui a été conçu par l'architecte Ricardo Bofill, fête ses 40 ans. Et donc ça sera aussi l'occasion de célébrer ce geste architectural qui va être magnifié par toutes les propositions artistiques que les Montpelliérains et au-delà de Montpellier, que le public va pouvoir découvrir complètement gratuitement.
Oui,
il faut aussi noter qu'il y a une mini-ZAT, c'est-à-dire que c'est une mini-ZAT à hauteur d'enfant pour accueillir donc les plus jeunes. Il y aura une place dédiée aux enfants autour d'une myriade d'activités. Donc nous avons aussi notre partenaire Zébuline qui fait son supplément toutes les semaines depuis quelques semaines dans la Marseillaise, qui fait aussi un zoom sur la programmation.
Oui.
Et donc on peut avoir, si d'ores et déjà les auditeurs veulent aller se renseigner pour voir tout ce qui est proposé pendant ces deux jours, donc les 11 et 12 novembre, on peut aller sur zat.montpellier.fr tout simplement pour avoir toute la programmation qui ne tiendrait pas dans un numéro de l'hebdo.
Oui, et puis aussi, c'est bien d'aller à la ZAT en se laissant porter et à la découverte de ce qu'on peut y trouver. Ça, c'est un côté fantastique des ZAT aussi.
Oui, oui. Il y a ceux qui aiment bien se faire surprendre et puis il y a les prévoyants qui aiment bien savoir
Allez, pour finir, on fait un détour par le Gard avec un événement pour célébrer le 50e anniversaire de la parution du roman de Jean Carrière, prix Goncourt 1972, Françoise.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un roman qui est paru en 1972, c'est L'épervier de Maheu. Donc écrit par le Nîmois Jean Carrière. Et donc le département du Gard a eu l'heureuse idée de célébrer cet anniversaire avec une série d'événements. Et il faut savoir que L'épervier de Maheu fait partie des romans qui sont parmi les plus vendus dans l'histoire du Goncourt.
Ouais.
C'est devenu vraiment un classique. Un classique qui nous plonge dans l'histoire cévenole. Hein, l'histoire et cette culture cévenole qui est magnifique, hein, qui est rude et qui c'est un livre qui rend aussi hommage à ce territoire. Hein.
Oui.
Donc, il y a des expositions qui vont être proposées. Donc c'est à partir du 14 novembre jusqu'au 23 décembre. Donc on a le temps et c'est proposé sur l'ensemble du territoire. Hein.
D'accord.
Elles vont à Nîmes, Vigan, Alès, Aigues-Mortes. Et comme nous l'explique Patrick Malavienne, hein, c'est le maire de la Grand-Combe qui est vice-président du conseil départemental du Gard. Il a la délégation de la culture.
Ouais.
Il dit évidemment que c'est un événement très important pour l'histoire littéraire du département. Et donc, il y a eu un effort énorme. Les archives départementales ont numérisé la totalité des écrits de cet auteur.
Ouais.
Donc, il faut savoir que les archives départementales, c'est un lieu public où le public peut être accueilli et peut aller gratuitement aller voir aussi et se plonger dans les archives. Alors là, évidemment, on parle de cet auteur, mais de Jean Carrière, mais il y a bien d'autres choses. Hein. Il y a d'autres. Alors, ça va se poursuivre en 2023. Hein. On va au-delà des 50 ans. Il va y avoir des conférences publiques, des tables rondes, des projections de films, des lectures-concerts et des résidences d'artistes au collège. Hein. Et donc, ce que nous explique Patrick Malavienne, c'est que c'est un projet qui est tourné vers la jeunesse, hein,
ouais.
Qui va pouvoir découvrir cet auteur, hein, et des collèges du département, puisque le conseil départemental a la responsabilité aussi des collèges.
Hein.
Ouais. Il y a beaucoup de collèges et donc de collégiens, de jeunes, hein, qui se sont mobilisés et qui se sont vraiment investis dans cette action, on va dire, culturelle, éducative. Évidemment, toutes les manifestations autour de Jean Carrière sont gratuites.
Mmh.
Il faut dire aussi que la ville de Nîmes, elle célèbre aussi le prix Goncourt, puisque le prix Goncourt, elle a une histoire avec la ville de Nîmes, hein, puisque il a été créé en 1892.
Oui.
Il y a eu Marc Bernard qui est un auteur qui a reçu le prix Goncourt et Jean Carrière dont on vient de parler.
Mmh.
Donc il y a à la fois aussi célèbre à travers des séries de manifestations et d'expositions. Donc Jean Carrière, Marc Bernard, lui, il a été couronné pour un texte qui s'appelle « Pareil à des enfants », qui est paru en 1942. Bon, qui est un texte, j'avoue, moi, que je ne connaissais pas, hein, Jean Carrière. Et il y aura aussi cette grande manifestation autour de l'anniversaire du prix Goncourt en général. Quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, ça s'appelle 1892, 1942, 1972. Donc, trois dates, la création et les deux prix Goncourt, on va dire, gardois.
Mmh.
Donc, c'est à la bibliothèque Carré d'Art, avec une belle exposition qui commence le 15 novembre
ouais.
jusqu'au 29 janvier 2023.
Eh bien, chers auditeurs, courez-y.
Voilà, il faut prendre date. C'est très bien de célébrer la littérature.
Merci beaucoup, Françoise. Je rappelle que...
Merci à vous.
Oui, merci. Je rappelle que tous ces titres que l'on a évoqués sont bien sûr à retrouver dans les colonnes de la Marseillaise. Le journal à paraître ce vendredi. Et quant à nous, on se donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.